France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue donc sur Inter, bonjour à tous, nous sommes donc le mercredi 5 mai. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la France ne compte plus un seul département avec un taux d'incidence supérieur à 400 cas de Covid pour 100 000 habitants. Le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis ont basculé hier. Ce seuil est l'un des éléments clés du déconfinement. Les explications de Daniel Messager dès le début du journal, après les autres titres.
Nous verrons comment les commerçants se préparent à 15 jours de leur réouverture. Une page élection régionale, parole d'électeur LR déboussolé en PACA et sondage dans les Hauts-de-France avec un Xavier Bertrand favori. Une appli pour parler de tout en toute discrétion au Moyen-Orient. Et puis le mur était décidément trop haut. Le PSG ne jouera pas la finale de la Ligue des Champions.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Un dessinateur de presse qui avait claqué la porte du Monde il y a 4 mois après les excuses du journal pour l'un de ses dessins. Il s'explique dans un court essai, Raison et dérision, et s'inquiète pour l'époque. Xavier Gore sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le député des Landes, porte-parole du Parti Socialiste, responsable du projet du PS pour 2022, Boris Vallaud. Il publie un esprit de résistance chez Flammarion. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il faut rester prudent, bien sûr, mais ce matin, tous les indicateurs ou presque sont au vert. Moins de patients en réanimation, 5504, de nouvelles contaminations en baisse, 24 371 au cours des dernières 24 heures contre plus de 30 000 mardi dernier. Près d'un quart des Français ont reçu au moins une dose de vaccin. Et il n'y a donc plus en France de département où le taux d'incidence est supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Ce seuil de 400 est un marqueur important sur lequel s'appuie la stratégie de déconfinement d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est un des trois marqueurs qui pourrait bloquer certaines rouvertures, les autres étant une brusque accélération de ce taux, et puis des services de réanimation dont la tension serait trop importante. La semaine dernière, 8 départements se trouvaient au-dessus de ce seuil. Tout ceux de l'Île-de-France, plus l'Oise et les Bouches-du-Rhône. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le Val-de-Marne, par exemple, est passé de 424 à 390 en 24 heures, et le taux global pour l'Île-de-France a baissé lui aussi d'une trentaine de cas et d'une cinquantaine si on regarde les hospitalisations. Il y a des régions ou des villes où les données sont encore plus marquantes, ainsi Dunkerque, au-dessus des 900 cas pour 100 000 habitants en février. Aujourd'hui, le taux le plus bas du département du Nord à 189. Des signes positifs pour Pascal Crépet, épidémiologiste à l'école des hautes études en santé publique de Rennes.
Ça confirme que nous sommes sur une pente descendante et que les indicateurs épidémiologiques s'améliorent. Mais il faut bien garder à l'esprit que c'est l'inertie de l'épidémie que l'on voit là. Cette baisse qui continue, elle est essentiellement liée au confinement que nous avons vécu il y a quelques semaines.
Cela fait maintenant une dizaine de jours que l'école primaire a repris. Elle ne semble pas accompagnée d'une hausse de contamination malgré une plus grande circulation de population. Mais il faudra étroitement surveiller les chiffres à la fin de la semaine prochaine, avec le retour partiel dans les collèges et lycées, pour voir s'il y a un effet rebond. Si ce n'est pas le cas, on peut espérer la poursuite d'une décrue, même si elle s'annonce plutôt lente.
Merci Daniel Messager. Et la vaccination va se poursuivre avec l'arrivée dans les prochains jours du vaccin Moderna chez les généralistes en ville, afin de pallier la désaffection croissante pour l'AstraZeneca. La deuxième étape du déconfinement se prépare donc dans 2 semaines, le mercredi 19 mai. Réouverture des terrasses, des lieux culturels et des commerces qualifiés de non essentiels. L'heure est donc aux préparatifs, comme a pu le constater Gaëtan Plénet, dans une boutique de vêtements du centre commercial de Créteil, en région parisienne.
Après 3 mois de fermeture, Christophe Lapôtre, le vice-président Retail France de Célio, est heureux de pouvoir retrouver les employés de ce magasin. Heureux mais attentif aussi, car il y a encore beaucoup de travail avant le jour J.
On doit réarmer la pompe, on doit réactiver le magasin dans un mode estival. Donc la première optique pour les équipes était de se dire, ok, on clean le magasin, on relibère notre mobilier, remettre vraiment en colis tout ce qui était collection hiver. Donc il a fallu faire un retour entrepôt ou faire des reports de collection sur l'année prochaine, ce qui est aussi une autre option.
Les manteaux et les écharpes au placard, place maintenant aux t-shirts et aux vestes plus légères pour une clientèle bien décidée à profiter de la fin du printemps et du début de l'été. Des vêtements qu'il faut réceptionner, déballer, trier, plier, ranger. 5 employés s'y attellent, notamment Marie.
On est organisé, chacun sa tâche. Donc en restant chez soi, c'est sûr qu'on perd un peu le rythme, mais on le retrouve très facilement. Ça devrait le faire au bon moment pour la réouverture.
Surtout que préparer les rayons, ça devrait prendre au maximum 4 jours. Mais Christophe Lapôtre a préféré s'y prendre tôt parce qu'on ne sait jamais.
On n'est pas à l'abri d'avoir des couacs logistiques, de devoir continuer à charger les magasins si on estime que le volume n'est pas suffisant. Donc on aura la chance d'avoir effectivement la semaine prochaine, semaine d'ajustement aux besoins, de connexion avec nos équipes. L'ouverture du rideau doit être une fête pour nous, on a hâte.
Une fête, d'accord, mais toujours dans le respect du protocole sanitaire.
Et les perspectives pour l'emploi sont bonnes, voire très bonnes, selon l'étude dévoilée hier par Pôle emploi. 2 700 000 projets de recrutement sont prévus cette année. Chronique écho de Dominique Seux à 8h moins le quart.
Il est 7h06, Agnès, les élections régionales, avec d'abord l'imbroglio en PACA.
Et un Renaud Muselier finalement réhabilité après une journée de discussions musclées au siège du Parti Les Républicains. L'actuel patron des Républicains dans le Sud-Est sera bien soutenu par son parti. La commission d'investiture a décidé hier soir qu'il ne pourrait y avoir aucun accord avec La République En Marche, mais le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, affirme lui qu'il y aura bien des marcheurs sur la liste Muselier. De quoi embrouiller les plus fervents militants LR à Nice. C'est un reportage de Faustine Calmel.
Ces effusions, ce grand déballage, comme disent certains, cela agace beaucoup Jordan Minari, 29 ans, dont 3 encartés chez Les Républicains.
C'est très inconfortable pour le militant que je suis. Les électeurs qui ne sont ni tentés par Emmanuel Macron, ni tentés par le Rassemblement National, comment vouloir les inviter en fait tout simplement à voter si on est incapable de leur donner une image de fidélité, de sincérité et de les représenter dignement? On ne peut pas d'un côté se revendiquer de l'opposition et d'un autre côté pactiser pour des intérêts personnels avec le gouvernement.
Manque de clarté, de ligne droite chez Renaud Muselier, c'est aussi ce que dénonce Alexandre Saradjian.
Je suis moi le premier perdu, donc c'est une tambouille, on ne sait pas où on va. Et moi, en tant qu'électeur de la droite, je suis déçu.
Membre du groupe de réflexion Droite de Demain, ce soutien d'Éric Ciotti attend de Renaud Muselier qui lui redonne confiance, et ça passera par...
Le programme globalement, mais c'est aussi par les personnes qui vont être sur la liste. J'y serai très attentif, et si je constate qu'il y a des personnes qui, en réalité, ne défendent pas la ligne de la droite... Eh bien, à mon sens, les régionales se feront sans moi.
La menace d'un vote blanc pour ce jeune homme engagé en politique depuis ses 18 ans. Une autre militante poursuit. Je suis écœurée. Cette affaire, c'est un boulevard pour l'abstention et des voix pour le Rassemblement National.
Faustine Calmel. Et à l'autre extrémité du pays, les Hauts-de-France, où on s'arrête ce matin avec ce sondage Ipsos Sopra Storia pour France Inter. Xavier Bertrand, l'actuel président des Hauts-de-France et candidat à sa succession, est favori grâce, Maxence Lambrecq, à un bilan jugé satisfaisant.
Xavier Bertrand fait mieux que Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. 69% des habitants de sa région trouvent qu'il a un bon bilan, 7 points de plus que ses deux amis. À tel point qu'il récupère des électeurs de Marine Le Pen et de Benoît Hamon. La gauche, pourtant réunie sous la bannière de l'écolo Karim Adeli, est donnée au premier tour à 20%. Xavier Bertrand à 35%. Et entre les deux, on retrouve le RN, bien moins fort que Marine Le Pen en 2015, 40% des voix au premier tour. Son lieutenant, Sébastien Chenu, est crédité de 32%, au mieux 34% au second tour. Est-ce qu'Emmanuel Macron a les moyens de faire tomber son futur adversaire? Pour l'instant, non. Son secrétaire d'État, Laurent Pietraszewski, peine à se qualifier au second tour avec tout juste 10%. S'il n'y arrive pas ou s'il se retire, Xavier Bertrand sera élu dans un fauteuil en triangulaire avec 20 points d'avance sur la gauche, 9 sur le RN. De quoi dynamiser sa course vers l'Elysée.
Reportage dans les Hauts-de-France, dans le journal de 8h. Et puis Gérald Darmanin a annoncé hier soir qu'il serait, avec l'accord du chef de l'État, candidat au départemental dans le Nord. Les députés ont adopté hier soir le projet de loi climat et résilience. 332 voix pour, 77 voix contre et 145 abstentions. Le texte est attendu au Sénat courant juin. Et puis il y aura, avant la fin de l'année, des yaourts et des biscuits au chocolat français estampillés Max Havelaar. Ce label est visible depuis 30 ans sur des produits équitables provenant de pays en développement. Il sera dans un premier temps adapté au lait et au blé français.
7h10, Agnès, quand une appli de téléphone portable devient un espace de liberté d'expression.
Et cela se passe au Moyen-Orient, où Clubhouse est devenu en quelques semaines la plateforme pour parler de tout ce qui est interdit ou tabou. Car la particularité de cette appli est qu'il n'y a ni vidéo ni texte, seulement des conversations que l'on peut suivre sur invitation. Aurélien Colli.
Il y a des discussions intéressantes, pas mal de liberté.
Sarah n'est pas une accro des réseaux sociaux, mais Clubhouse, c'est différent selon cette mère de famille d'origine palestinienne.
Beaucoup de thèmes tabous, la virginité chez la femme dans le monde arabe, comme le sexe, les relations sexuelles avant le mariage. Beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire dans la société, de femmes divorcées, comment est-ce qu'elles peuvent vivre, etc. Là, il y a 289 personnes qui sont en train de discuter. Ils sont en train de parler de l'islam. Est-ce que l'islam doit être séparé de l'État? Et ce sont tous des gens du Golfe. Là, elle est en train de dire qu'elle, elle est musulmane, mais elle ne veut pas qu'on utilise l'islam contre la femme.
Dans ces salons arabes virtuels qui échappent jusqu'à présent à la censure, la politique s'invite aussi. Les opposants bannis se font entendre comme les citoyens lambda. On échange, on débat, on critique les régimes et la chape de plomb sur la région.
Bien sûr, on est dans une région où on n'entend pas la voix du peuple, on ne veut pas l'entendre. Donc là, c'est vraiment une bouffée d'air pour les gens. On donne le micro au peuple. Ce n'est pas des gens connus, comme on voit à la télé. Donc, c'est vraiment des gens du peuple. Et ça dit de la frustration des peuples. Mais ça dit qu'il y a quand même une énergie et qu'un jour, ça va quand même exploser.
Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
La victoire de la droite conservatrice aux élections régionales à Madrid et un revers cinglant pour la gauche. Le leader de Podemos, Pablo Iglesias, annonce son retrait de la vie politique. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Enfin, le suspense n'a duré que quelques minutes. Hier soir, le PSG n'a pas fait le poids face à Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Battu à Paris, les Parisiens ont été battus en Manchester 2-0 sous une pluie mêlée de grêle. Et c'est un joueur né à Sarcelles qui a crucifié le PSG. Cédric Guillou.
Sarcelles 3, Bondy 0. Voilà comment certains supporters ont réagi hier soir sur les réseaux sociaux après le festival de Riyad Mahrez. L'Algérien, né à Sarcelles il y a 30 ans, a totalement éclipsé Kylian Mbappé sur cette demi-finale. Alors certes, le kit de Bondy était blessé au mollet sur cette rencontre au retour, mais déjà au match aller au Parc des Princes. Mahrez, buteur sur coup franc, avait totalement pris le dessus sur Mbappé. Pep Guardiola, l'entraîneur mancunien.
Riyad est un joueur extraordinaire. Il sait répondre présent dans les grands rendez-vous et c'est ça qui fait la différence entre les bons et les très bons joueurs.
Riyad Mahrez, qui a débuté à Quimper en 2009, qui est passé par Le Havre de 2010 à 2014, a rejoint l'Angleterre en signant à Leicester puis Manchester City en 2018. Cette élimination du Paris Saint-Germain restera l'un des grands moments de sa carrière.
Marqué dans les grands matchs, dans les grands moments, c'est ce qu'on veut quand on est footballeur, quand on est jeune, c'est de quoi on rêve et voilà, c'est bien pour l'équipe.
Une équipe de Manchester City qu'il compte désormais mener sur le toit de l'Europe le 29 mai prochain à Istanbul.
Et en finale à Istanbul, justement, Manchester City affrontera le Real Madrid ou Chelsea. Les deux équipes s'affrontent ce soir en Angleterre après un match nul, un partout à l'aller.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, c'est le Zoom aujourd'hui sur les indépendantistes écossais en campagne.